La Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er, un texte sur lequel on a entendu parler récemment, puisque c'est dans ce chapitre que Jésus déclare « Je suis le cep ». Jean, chapitre 15, verset 1er, on va lire les 8 versets. Moi, je voulais simplement sortir une partie de verset. Mais on lit quand même les 8 premier verset, Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Des paroles qui s'adressent à nous, qui nous exhortent à porter du fruit et toujours à chercher à en porter davantage. Voilà, donc des paroles qui nous exhortent à toujours porter du fruit, à en porter davantage. Récemment, Stéphane nous disait aussi qu'il y a une notion de vigilance dans ce passage-là. Moi, je voudrais simplement m'arrêter au verset 5, quand il est dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je voudrais m'arrêter sur cette phrase-là, alors il faut bien sûr la considérer dans son contexte, mais je voudrais la prendre en tous les cas et m'arrêter dessus. Alors une première parole, une première réflexion sur cette parole, c'est qu'elle peut surprendre en première lecture parce que beaucoup de gens ont fait de belles choses sans Dieu. Sur le plan artistique, sur le plan architectural, sur le plan intellectuel, sur le plan humanitaire, même sur le plan scientifique, beaucoup de choses ont été faites sans Dieu. L'homme est capable de faire de belles choses sans consulter Dieu, sans dépendre de Dieu, sans être dirigé par Dieu. Jésus l'a dit dans un autre contexte, il a dit que l'homme, bien qu'il soit méchant, il est capable de faire de bonnes choses et d'avoir de bons sentiments et de réaliser de belles choses. Luc chapitre 11, verset 11 dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?» Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Je précise quand même que tout ce qu'un homme fait ici-bas, quelque part, c'est toujours parce que Dieu le permet et Dieu le veut. Même si ce n'est pas le sens du texte, et ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus dit cela. Mais c'est quand même bien de le dire. Tout ce qu'un homme fait, même s'il ne veut pas de Dieu, même s'il est opposé à Dieu, c'est parce que Dieu quand même permet, ou il le veut, il le dirige d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il est quand même aux commandes. On se rappelle ce grand roi Nebuchadnezzar, qui à un moment donné va regarder son royaume et il va s'exclamer. Et il va dire ceci, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force ?» et pour la gloire de ma magnificence. » C'est vrai qu'il avait fait quelque chose de grand. Il était le plus grand empereur du monde à cette époque-là. Et à ce moment-là, il y a un jugement qui est tombé sur lui. Et il s'est retrouvé comme un fou. Il est devenu fou pendant 8 ans. Il avait tout bâti, sans dépendre de Dieu, même parfois en pratiquant des choses occultes. Et Dieu va le faire passer par une expérience douloureuse, afin qu'il apprenne que tout ce qu'il avait pu faire, tout ce qu'il avait, c'était quand même grâce à lui, et qu'il était au-dessus. Une fois rétabli, il dira ceci au terme du temps annoncé, moi, Nebuchadnezzar, c'est lui qui écrit, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement, et je proclamai sa gloire, sa souveraineté est éternelle, et son règne dure en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui, et il agit comme il entend envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à cette intervention et lui dire « Que fais-tu ?» Cette déclaration, je reviens sur mon texte, « Sans lui, vous ne pouvez rien faire », est bien sûr à considérer dans le contexte. Il y a le petit mot « car » qui fait le lien. Et puis juste avant, même s'il était, il était dit « Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. » En lui, nous pouvons porter du fruit. En lui, nous pouvons même porter beaucoup de fruits. Mais sans lui, nous ne pouvons pas en porter. Je voudrais quand même décliner cette parole, l'étendre un petit peu, pour qu'on puisse mieux cerner ce qu'il faut comprendre dans cette parole, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La première chose que je voudrais dire, c'est ceci. Sans Jésus-Christ, sans lui, vous ne parviendrez pas à vous transformer et à vous changer. Dans le contexte, Jésus parle de la nécessité de porter du fruit. Qu'est-ce que le fruit ? Le fruit, c'est le résultat de la vie de Dieu en nous. Un texte qui a été lu récemment aussi dans Galates chapitre 5, verset 19, il est dit « Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Dans ce passage, Paul oppose les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et il montre clairement que pour produire du fruit, pour avoir le caractère de Jésus, il faut qu'il y ait une action de Dieu dans notre vie. Pour pouvoir changer son caractère, pour pouvoir changer ses habitudes, pour pouvoir changer sa manière de penser, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. C'est vrai que des fois, dans la vie, avec notre parcours, il peut y avoir des moments de crise où il y a comme un changement. Mais ça sera toujours relatif et avec une limite. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie, là il y a un changement. Un double changement qui va nous permettre de produire du fruit, de voir un changement au niveau de notre caractère, de pouvoir changer notre manière de penser, qui va changer nos désirs, qui va changer notre échelle de valeur, nos priorités. Ce changement, c'est lorsque Jésus vient et qu'il pardonne nos péchés. Lorsque nous devenons une nouvelle créature. Et beaucoup ont pu faire ce changement. Je sais comment j'étais avant de connaître Jésus. Et je sais ce que je suis devenu après. Oh, je sais qu'il y a encore du travail. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu un changement. Et lorsque Jésus-Christ vient, lorsque on est de nouveau, on expérimente sa grâce, il y a un changement. Et on commence à produire du fruit. Ensuite, bien sûr, l'œuvre de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous va continuer de nous amener à produire du fruit. Mais on peut des fois avoir le désir de changer, c'est bien d'avoir le désir, mais on n'en a pas la capacité. Seul Jésus-Christ est celui qui peut nous changer à l'intérieur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit ceci. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Un texte intéressant parce qu'il nous rappelle que c'est Dieu qui peut nous transformer, et lui seul peut le faire. Il est, dans ce verset que je viens de lire, ce texte, il y a un présent qui dure. Littéralement, nous sommes en train d'être transformés. C'est un changement qui commence lorsque Jésus vient et qui se poursuit en demeurant en Jésus-Christ. Le verbe est à la forme passive. Ça nous rappelle que c'est lui qui nous change. Même si nous avons notre part, dans le sens d'être attachés à lui et d'ouvrir notre cœur. Et puis ce texte, il est au pluriel, pour nous rappeler que tous les hommes peuvent être changés au niveau de leur cœur. Dans la mesure où on accepte, on dit « Seigneur, viens dans ma vie, je t'ouvre mon cœur », le Seigneur est celui qui peut nous transformer. Et il peut nous changer dans tous les domaines, notamment dans le domaine du caractère. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont bon caractère, même naturellement. Et quand ils découvrent Jésus, finalement, il n'y a pas un gros changement apparent. Par contre, il y en a qui ont vraiment mauvais caractère. Et eux, à la conversion, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Mais le Seigneur, il le fait. Mais il y a bien d'autres domaines où Jésus peut nous transformer et il est le seul qui peut le faire. Dans la liberté par rapport aux addictions, par exemple. Lorsque Jésus vient et qu'on demeure attaché à lui, le péché perd sa force et il nous place au-dessus des problèmes. C'est un petit peu lorsque l'on prend de la hauteur, la loi de la gravité, elle perd de la force. Lorsque Jésus vient dans notre vie, on est attaché à lui, on vit en lui, on se nourrit de lui, le péché, il perd sa force. Même dans le domaine du pardon, parfois on peut avoir vécu des drames, on peut avoir été blessé profondément. Mais Jésus est celui qui peut nous transformer et nous amener à exercer le pardon, à pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal. Retenons cette première pensée. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous changer. Mais s'il est là dans votre vie, il est celui qui peut vous transformer. J'aurais dû commencer par là, mais je l'ai mis dans ce sens-là. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire pour vous sauver. L'Évangile nous dit et nous apprend que tous les hommes ont besoin d'être sauvés, car nous sommes tous des pécheurs. C'est une vérité qu'on a beaucoup de mal à entendre, au moins pour la première fois, au début, parce qu'on a plutôt envie de penser que l'homme est bon et qu'il a du mal à exprimer sa bonté, mais la Bible tient un tout autre langage. Elle nous dit que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Mais l'Évangile nous apprend aussi que non seulement nous sommes des pécheurs, mais nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous ne le pouvons pas. Et c'est une vérité qu'on a aussi du mal à entendre à cause de notre nature religieuse. Rappelons-nous la réaction des disciples quand ils ont vu ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus et qui voulait se sauver lui-même. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? L'échange va se passer d'une certaine manière, je ne reviens pas dessus. Mais ça se termine où cet homme, il repart tout triste parce qu'il n'arrive pas à changer sa manière de penser. Et les disciples, ils vont rester là, abasourdis de ce qu'ils ont vu. Et ils diront ceci. Mais qui donc peut être sauvé? Et vous rappelez la réponse de Jésus? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est possible. Et comprenons que la religion, quelle qu'elle soit, elle trompe les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle leur fait croire qu'ils peuvent espérer se sauver eux-mêmes à coup d'aumônes ou à coup de privation ou à coup d'efforts méritoires. Non, c'est peine perdue. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Toutes les religions, elles enseignent à peu près la même chose, avec des variantes, bien évidemment, mais elles enseignent à peu près qu'il faut essayer de mériter. Tu ne peux pas te sauver toi-même. La Bible est catégorique. Elle nous dit ceci. Les hommes ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Samedi matin, on est allé à Renault, là, et pendant qu'on attendait le vendeur que l'on connaît bien, j'ai fait un tour et regardé les voitures. Mais j'ai pris peur quand j'ai vu les prix des voitures. J'étais encore à une autre époque. Ça fait. J'ai pris peur. Mais le prix du rachat de notre âme, c'est beaucoup plus élevé. Personne ne peut mettre le prix. Il est trop cher. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit, me voici. Et moi, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. La Bible nous dit ceci. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions sans force, sans force pour pouvoir nous sauver, incapable de nous sauver, incapable d'atteindre le salut. Il est venu et c'est lui qui l'a accompli. Jésus-Christ a donné sa vie. Il est venu, il s'est fait homme et il s'est fait homme pour pouvoir prendre notre place. Et il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à la croix. Il est mort pour nous, il est mort à cause de nous, il est mort en notre faveur. Mais il est ressuscité, il a ouvert le chemin du ciel. Ça, nous ne pouvions pas le faire, c'est lui qui l'a fait pour nous. Les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il l'a rendu disponible. Mais attention quand même, les hommes ont leur part à faire, dans le sens d'accepter ce que Jésus a fait. Le salut n'est pas universel, il est offert à tous, il est possible pour tous, mais il fonctionne avec ceux qui l'acceptent et qui reconnaissent Jésus comme sauveur. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous sauver, mais en lui, vous pouvez l'être dès ce soir. Autre point, sans Jésus, et là il y aurait de quoi s'étendre et de quoi beaucoup parler, mais je veux dire simplement, sans Jésus, vous ne pouvez être efficace dans le service de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et la pensée, elle est omniprésente dans ce texte-là. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ nous sauve. Mais il nous sauve dans le but de faire de nous des disciples et des serviteurs, ses ouvriers. Mais sans lui, ça veut dire sans communion avec lui, sans dépendre de lui, sans son assistance, sans le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, sans les dons spirituels, sans ses armes, on ne pourra pas faire grand-chose dans l'œuvre de Dieu. On ne pourra pas faire avancer le royaume de Dieu. Les méthodes de Dieu ne sont pas celles des hommes. Les stratégies de Dieu, si on peut parler comme ça, parce que j'aime pas trop ce mot, mais elles ne sont pas celles des hommes. La manière de fonctionner, le plan de Dieu n'est pas celui des hommes. Et ça, c'est... Et sans lui, on n'y arrivera pas. Sans lui, ça sera difficile d'être une source d'encouragement. Sans lui, ça sera difficile d'atteindre les perdus. Sans lui, on manquera d'efficacité, on sera un petit peu comme battant l'air, allant dans tous les sens, mais on manquera d'efficacité. La Bible dit qu'avec lui, Dieu nous communique ses armes, il nous communique sa pensée, il nous communique sa nature, et ça change tout. Alors ce texte-là ne doit pas devenir un prétexte à l'inactivité ou à la paresse ou à vouloir faire seulement les choses pour Dieu, mais c'est vraiment un encouragement. Ça doit être un encouragement pour nous à vouloir faire les choses pour Dieu, mais aussi avec Dieu, en Dieu. Ça doit être un encouragement pour nous à chercher à progresser. J'ai noté ceci, le Seigneur ne veut pas faire sans nous, mais nous ne pouvons pas faire sans lui. Et puis sans Jésus, on ne peut rien faire. Rien faire qui dure éternellement. Il y a un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il est écrit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Paul responsabilise les chrétiens de Corinthe sur la manière dont ils se comportent, sur la manière dont ils agissent. Il leur fait comprendre que finalement il y a toutes sortes de matériaux, mais en fait il n'y en a que deux. Il y a ceux qui résisteront au feu et il y a ceux qui ne résisteront pas au feu. Il y a ceux qui résisteront et qui passeront au jugement et ceux qui ne passeront pas. Et il est évident que si on fait les choses en Christ, avec Dieu, on va bâtir avec des matériaux qui résisteront au feu. Alors quand je parle de résister au feu, je pense à deux choses. Qui résisteront déjà dans le temps, mais qui résisteront aussi au moment où Dieu pèsera les choses, où Dieu les examinera. Il est question de récompense. Mais il est évident que si on construit sans lui, on fonctionne sans lui, ce qu'on aura, parfois on aura peut-être du résultat ici-bas, mais pas dans l'éternité. Ça aura forcément un impact. Il y a des méthodes qui ne marchent pas avec la vie chrétienne. La manipulation, la flatterie, le mensonge, la sournoiserie, hein, le fonctionnement par intérêt, la cupidité, enfin, tout ces, il y a des méthodes, ça ne marche pas avec nous. Ça ne peut pas. Ça ne résistera pas. C'est important de se rappeler qu'on bâtit ce que l'on construit. Si on veut construire sans lui, ça ne résistera pas au feu. Nous, on veut bâtir les choses avec lui, en dépendant de lui. Je termine en disant ceci, je reviens un petit peu. Finalement, je voudrais dire ceci, c'est un drame d'être sans Christ. Il y a un texte que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai plusieurs fois parlé, souvent parlé. Éphésiens chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce texte dit, vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance. J'ai déjà eu l'occasion de dire, mais sans Dieu, c'est le mot athéos, athée. Le mot athée, il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est ici. Mais comprenons bien que pour Dieu, un athée, c'est pas seulement celui qui ne croit pas en Dieu. Un athée, c'est celui qui est perdu, et c'est un drame. C'est quelque chose de dramatique. Un athée peut même être croyant, dans un sens très light ou très léger, ou croyant pas pratiquant, enfin ce que vous voulez. Mais, vous voyez, c'est ça, dans ce sens-là. C'est un « ne restez pas sans lui ». Jésus-Christ, il est celui qui veut pardonner nos péchés. Il est celui qui veut communiquer la vie éternelle. Il est celui qui veut rentrer dans notre cœur, mais il veut aussi vivre avec nous. Et quand Jésus devient notre sauveur, on vit en lui, on vit avec lui, on peut vivre de lui, on peut vivre par lui, pour lui, enfin, il y a mais toutes les conjonctions qu'on peut, là, qu'on veut, mais c'est quelque chose de grand, c'est tout un programme. Alors nous vous en supplions, mais laissez-le rentrer dans votre vie. Ne soyez pas sans Dieu, sans Christ. Je dirais aussi, finalement, ça serait peut-être encore plus dramatique si quelqu'un a rencontré Jésus, l'a reçu comme sauveur, mais il fonctionne sans lui. Ça serait bien dommage. Sans lui dans le sens de ne pas dépendre de lui, de ne pas être en communion avec lui. Jésus, il est celui qui nous a sauvés, mais le salut, c'est pas seulement j'attends dans le ciel et ici-bas je vis n'importe comment. Non, Jésus m'a sauvé. Mais ici-bas, je peux expérimenter sa grâce, je peux vivre avec lui, je peux goûter à la vie d'en haut et goûter aux choses du ciel déjà maintenant. Pour ceux qui sont en Christ, comprenons que, bien évidemment, il y a cette idée de progresser avec lui, par lui, pour lui. Quand on regarde la Bible, on voit des fois des hommes qui ont, hein, ils ont eu des fois des départs, c'est un petit peu compliqué. On pense aux disciples notamment. Au départ, ils ne fonctionnent pas trop avec Dieu, mais ils ont appris. Le texte nous dit qu'en Christ, on peut porter du fruit. On peut porter beaucoup de fruits. Ne fonctionnons pas sans Christ. Là, je m'adresse aux frères et sœurs, mais on veut vraiment apprendre à dépendre de lui, à être en communion avec lui. On veut finalement que, toujours dans tout ce que l'on fait, on puisse dire « Seigneur, tu es là, tu nous accompagnes, tu nous inspires ». Je ne veux pas dire qu'on a besoin d'une révélation pour tout ce qu'on fait ou des choses comme ça, en fait, mais on veut vraiment être en Christ, dans tous les domaines, fonctionner avec lui. Retenons cette parole, sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Mais rappelez-vous aussi, avec lui, on peut faire de grandes choses. Quand il est notre sauveur, on peut vivre de belles choses. Et quand il est avec nous, on peut vraiment faire avancer le royaume de Dieu. Que son nom soit béni. Seigneur, merci parce que en toi, la vie, elle change. Et ma prière, Seigneur, c'est que dans cette soirée, personne puisse dire « Je suis sans Christ, je suis sans Dieu, je suis tout seul ». Je prie, Seigneur, pour que tu te révèles dans cette soirée et tu pardonnes les péchés. Tu es celui qui communique la vie éternelle. Seigneur, étends ta main et révèle-toi, que chacun puisse dire « Moi, je suis maintenant en Christ ». Et pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur, on veut vraiment aller plus loin dans cette pensée. Seigneur, on ne veut pas y être par intermittence, de temps en temps un petit peu, mais on veut vraiment demeurer en toi. Seigneur,